Très cher Père Doyen, chers amis, permettez-moi de vous saluer à l'occasion de ce premier cours en iconologie au Centre des études de théologie orthodoxe Dimitri Staniloe à Paris et de vous dire que je suis très heureux de commencer ce cours qui, je pense, sera un cours qui sera très illustré, puisque nous parlons de l'art de l'Église orthodoxe et de sa théologie. Aujourd'hui, comme c'est le premier cours, un cours d'introduction, exceptionnellement, il n'y aura pas d'image, puisque je voulais d'abord introduire un peu la matière par quelques considérations proprement discursives et théologiques. Et pour parler de l'image orthodoxe qui est l'icône, les saintes icônes, qui sont nos images liturgiques, je me suis dit que peut-être une des meilleures façons d'introduire ce sujet, c'est de dire aujourd'hui quelques mots sur la notion d'indescriptibilité dans l'iconographie orthodoxe. Dans le poème de 366 vers que Molière consacre à célébrer la gloire du Val-de-Grâce, peinte par Mignard vers 1665, nous trouvons à propos de la Trinité représentée au centre de la coupole la description suivante. Mais parmi sont objets d'une beauté touchante, le Dieu porte au respect et n'a rien qui n'enchante. Rien en grâce, en douceur, en vive majesté qui ne présente à l'œil une divinité. Un siècle plus tard, ce qu'on a pu appeler l'aventure iconique de Dieu tourne court en Occident. Avec la fin de l'art baroque, soit dès le troisième quart du XVIIIe siècle, on atteint la fin de la trajectoire iconique des figures chrétiennes de Dieu dans l'art occidental. D'après les spécialistes de la question, il était devenu impossible de représenter Dieu. Autrement dit, la mort de Dieu au sens de Nietzsche aurait été précédée par la mort de l'imagerie du bon Dieu. Il faut croire que le mensonge séculaire de ces iconographies anthropomorphes, qui furent autant de négations de son indescriptibilité, était devenu insupportable. D'où l'actualité d'une tradition qui a, au moins en théorie, su maintenir cette indescriptibilité comme base même de son iconologie. Lorsque je nomme Dieu, dit saint Grégoire de Nazianz, je nomme le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Non pas que je suppose une divinité diffuse, ce serait ramener le trouble des faux dieux, non pas que je suppose la divinité recueillie en un seul, ce serait l'affaire bien pauvre. Triade, Trinité, ce mot embrasse ce qui est uni par nature et ne laisse point disperser les inséparables par un nombre qui sépare. Le nombre qui sépare, c'est évidemment deux. Principe de la dualité et ouverture sur la multiplicité. Trois, en revanche, est compris par les pères comme le nombre qui dépasse la séparation. Dans une telle perspective, le un et le multiple se trouvent, pour ainsi dire, conciliés dans la Trinité. Mais alors, comment approcher, comment concevoir cette antinomie de l'un et du multiple, de l'unité et de la Trinité? La réponse des pères est unanime. Pour dépasser les catégories conceptuelles de la pensée discursive habituelle, pour la libérer des limitations d'une rationalité déchue, le recours à la voie négative, à la théologie apophatique, s'impose. Suite au pseudo-Denis, mystérieux auteur du Corpus Areopagiticum, mort probablement au début du VIe siècle, les pères distinguent deux voies théologiques possibles. L'une, cataphétique ou positive, procède par affirmation. L'autre, apophatique ou négative, procède par négation. Tout en admettant l'utilité relative de la première, le consensus patrum s'est toujours exprimé dans le sens d'une nette préférence de la deuxième. Celle-ci a abouti à un dépassement de tout ce qui a trait à la finitude créée et à l'affirmation de notre ignorance de tout ce que Dieu est. À la docte ignorance, dira plus tard Nicolas de Cuès. Affirmation négative et négation de toute affirmation, seule énonciation appropriée à l'égard de Dieu, inconnaissable par nature. En examinant dans son traité des noms divins, le nom haine, si cher à Platon et qui peut être dit de Dieu, le pseudo-Denis montre l'insuffisance de ce terme et lui oppose le nom le plus sublime, celui de Trinité. Selon Denis, ce nom nous enseigne précisément que Dieu n'étant ni l'un ni le multiple, mais inconnaissable en ce qu'il est, cette antinomie se trouve surpassée et abolie à jamais. Cependant, pourrions-nous remarquer avec Vladimir Lossky, on peut se demander si l'idée du nombre peut s'appliquer à Dieu si on ne se soumet pour la divinité à une détermination extérieure, à une forme propre à notre entendement, celle du nombre 3. À cette objection, Saint Basile répond « Nous ne comptons pas en composant, allant de l'un au multiple par augmentation. Disons 1, 2, 3, ou le premier, le second, le troisième. Jamais jusqu'à ce jour, on a dit « le second Dieu ». Ainsi, lorsqu'il se rapporte aux hypostases divines, personnes indivisiblement unies et dont l'ensemble ne fait toujours qu'unité, le nombre 3 désigne moins une somme, n'est pour ainsi dire pas quantitatif, mais sert plutôt à exprimer l'ordre, la taxis, ineffable dans la divinité. Si le principe même de l'être créé est le changement, l'insiste Lossky, le passage du non-être à l'être, si la créature est contingente par nature, la Trinité est une stabilité absolue. Les notions de procession, d'acte ou de détermination intérieure qui se réfèrent au devenir et à l'intention ne font que démontrer la déficience de nos catégories de pensée et des possibilités de notre langage devant le mystère trinitaire. Il ne nous reste donc que l'approche apophatique, qui n'est pas une simple formalité plus ou moins obligatoire, une sorte de politesse considérée désuète par les impatients des certitudes bien systématisées, mais l'indispensable garant de la transcendance absolue du Dieu Trinité, tel que saint Jean Damascène l'exprime. Le divin, dit-il, est infini et incompréhensible, et la seule chose que nous puissions comprendre est son infinité et son incompréhensibilité. Tout ce que nous disons de Dieu en termes positifs déclare non sa nature, mais ce qui entoure sa nature. Dieu n'est rien des êtres, non qu'il ne soit pas l'être, avec un E majuscule, mais parce qu'il est au-dessus de tous les êtres, au-dessus de l'être même. On pourrait aisément multiplier les exemples de cette voie négative chez les pères. Citons encore un père de la fin de l'époque byzantine, Saint Grégoire Palamas, qui confirme tout ce que ses prédécesseurs ont pu dire à ce sujet en écrivant « La nature super-essentielle de Dieu ne peut être ni dite, ni pensée, ni vue, car elle est éloignée de toute chose et plus qu'inconnaissable et ineffable pour tous et à jamais. Il n'y a point de nom dans ce siècle, ni dans le siècle futur pour la nommer, ni de paroles trouvées dans l'âme et proférées par la langue, ni de contact sensible ou intelligible, ni d'image pour donner une connaissance quelconque à son sujet. L'indescriptibilité fait donc nécessairement partie des apophatismes qui sauvegardent la transcendance divine et concernent de toute évidence non seulement l'oucille, l'essence ou la nature commune aux trois personnes, mais également ces trois hypostases en tant que Dieu. Une des propriétés de Dieu qui font qu'il est inconnaissable est son invisibilité, qui interdit à son tour toute description de sa divinité, par exemple par les moyens des arts plastiques. L'avertissement divin adressé à Moïse dans Exode 33:20 « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et rester vivant » fonde l'interdiction des idoles du Décalogue. « Tu ne feras rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, là-haut, sur terre, ici-bas, ou dans les eaux, sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant. » Exode 24. Cette invisibilité et l'indescriptibilité des trois hypostases divines qui en résultent concernent de toute évidence, en premier chef, la personne du Père. Le Père est Pigère Theotis, la source de toute divinité dans la Trinité. Confesser l'unité de la nature, c'est pour le Père grec reconnaître le Père comme source unique des personnes qui reçoivent de lui cette même nature, aimait dire Vladimir Lvovsky. Quant à Sainte Trinité de Lyon, il parlait volontiers du Fils et du Saint-Esprit comme des deux mains du Père. Mais en disant cela, Saint Irénée se situait déjà sur un autre plan, celui des actes divins ad extra, c'est-à-dire celui de l'économie du Verbe et de l'Esprit dans la création et l'histoire. Nous y reviendrons. Pour le moment, nous soulignerons qu'il n'y a pas d'économie du Père, et c'est pourquoi tout discours sur Dieu le Père ne saurait être qu'apophatique. Les deux canons eucharistiques attribués respectivement à Saint Jean Chrysostome et Saint Basile le Grand élèvent en s'adressant directement à Dieu le Père. Cette approche apophatique au niveau de la prière universelle en proclamant « Tu es Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, inaccessible, immuable et indescriptible. » Le Père étant totalement transcendant, est indescriptible. Il ne peut en principe y avoir aucune image de lui. Et pourtant, à deux reprises, saint Paul affirme clairement, en parlant du Christ, « Il est l'image du Dieu invisible. » Colossiens 1:15 et 2 Corinthiens 4:4. Et selon saint Jean 14:9, le Christ lui-même n'était pas moins clair en répondant à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il faudra en fait attendre la grande controverse triadologique de l'arianisme pour voir ces passages entrer dans l'arsenal des citations scriptuaires des pères de l'Église. Comme on le sait, ce fut le mérite de saint Athanase d'Alexandrie, saint Athanase le Grand, d'avoir enrichi la théologie chrétienne de la notion du Fils, image consubstantielle du Père. Du Fils, image consubstantielle du Père. Qui devint rapidement une partie constituante de la triadologie patristique. Plus tard, saint Jean Damascène introduira la notion d'image naturelle pour exprimer la même idée. Le Fils étant icône physique, image naturelle, complète et en tout semblable au Père, sauf l'innascibilité et la paternité. Ainsi, nous sommes remontés à la source ultime de toute vénération chrétienne des images, le Fils et dont le Père, comme la beauté de l'image réside dans la forme archétype. Le Père et dont le Fils, comme la beauté archétype demeure dans son image, déclare Grégoire de Nice. Mais afin de prévenir tout malentendu concernant la théologie de l'icône, nous devons immédiatement souligner que la notion d'image consubstantielle appartient exclusivement à la triadologie et ne peut être utilisé dans la sphère que dans la sphère divine des relations intra-trinitaires. En aucun cas, elle ne doit être considérée comme le premier maillon d'une longue chaîne d'images qui descendrait, pour ainsi dire, de quelque Ungrund divin et des cieux suprêmes jusqu'au niveau de notre perception optique et de sa reproduction par la peinture. En tant qu'image essentielle ou naturelle du Père, le Fils reste sur le plan trinitaire strictement invisible et donc apérigraptos, indescriptible ou incirconscrit, car la périgrapsie, l'indescriptibilité, est un attribut de la nature divine du Père qu'il a en commun avec le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi même, la doctrine du Fils, image consubstantielle du Père, ne change rien à la stricte indescriptibilité des trois hypostases divines sur le plan proprement théologique, ou si l'on veut, intra-trinitaire. N'oublions pas que le Père distingue clairement entre la théologie, qui traite de la Trinité, de Dieu en soi, dira la scolastique latine, et l'économie, qui veut dire littéralement construction ou l'administration d'une maison, et qui traite de la création, de la révélation et des différentes étapes de l'histoire du salut, autrement dit de la présence de Dieu dans le monde dès sa création. C'est en ce sens que nous avons dit plus haut qu'il n'y a pas d'économie du Père. En revanche, le Fils et le Saint-Esprit sont les deux personnes qui révèlent Dieu, le Dieu trine au monde. Par le Verbe adressé à Adam et sa descendance, par l'Esprit qui a parlé par les prophètes, par diverses théophanies et ultimement dans la plénitude des temps par l'incarnation du Verbe et la venue personnelle du Saint-Esprit à la Pentecôte, les deux économies du Logos et de l'Esprit non seulement n'excluent pas la visibilité et par là la descriptibilité, mais surtout en ce qui concerne le Logos, au contraire, ils font appel en tant qu'élément central de la révélation. C'est vers ces deux économies que nous devons nous tourner maintenant. Déjà, Saint Irénée de Lyon développe l'idée d'une révélation progressive de Dieu, créant tout par le Verbe, révélation que le Verbe poursuit en se manifestant aux patriarches et aux prophètes, en qu'il consomme et qu'il consomme en s'incarnant. C'est le Fils qui, dans sa manifestation, c'est-à-dire son incarnation, donne la connaissance du Père, car la connaissance du Père est la manifestation du Fils. Le Père est invisible et l'invisible du Fils, tandis que le Fils est le visible du Père. Ces paroles font de Saint Irénée de Lyon un précurseur éminent des apologètes des saintes icônes. Car voici ce que dit le patriarche Saint-Germain de Constantinople, premier confesseur et docteur de l'iconodoulie. C'est en mémoire éternelle de la vie dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa passion, de sa mort salvatrice et de la rédemption qui en a résulté pour le monde, que nous avons reçu la tradition de le représenter dans sa forme humaine, c'est-à-dire dans sa théophanie visible, entendant bien que par là nous exaltons l'humiliation de Dieu le Verbe. Ce n'est pas pour éloigner du culte parfait de Dieu que nous admettons la production des icônes faites de cire et de couleur, car de sa divinité invisible, nous ne faisons ni icône ni représentation. En effet, les saints anges eux-mêmes ne peuvent pas la comprendre ou la pénétrer entièrement. Mais depuis que le Fils unique lui-même, qui est dans le sein du Père, a daigné devenir homme selon le dessein bienveillant du Père et du Saint-Esprit, pour racheter sa propre créature, depuis donc qu'il est devenu participant du sang et de la chair comme nous, comme dit le grand apôtre, devenu semblable à nous en tout, excepté le péché, Hébreux 4:15, nous dessinons l'image de son aspect humain selon la chair, et non pas de sa divinité incompréhensible et invisible, car nous nous sentons pressés de représenter ce qui est notre foi, pour montrer qu'il ne s'est pas uni à notre nature en apparence, comme une ombre, mais qu'il est devenu homme en réalité, en vérité, parfait, en tout excepté le péché qu'a semé en nous l'ennemi. En raison de cette foi inébranlable en lui, nous représentons le caractère de sa sainte chair sur les icônes et nous vénérons celles-ci et les honorons avec la révérence qui leur est due puisqu'elles nous conduisent au souvenir de sa divine incarnation vivifiante et indicible. C'est une citation des actes du 7e concile, donc de Nicée II. Le plus grand théologien de la première période iconoclaste, Saint Jean Damascène, s'exprime ainsi. Si nous faisions une image du Dieu invisible, nous serions certes dans l'erreur, car c'est impossible puisqu'il est son corps, son figure invisible et infinie. Or, nous ne faisons rien de tel. Nous n'errons pas en effet si nous faisons l'image de Dieu incarné, apparu sur terre dans la chair, qui dans son ineffable bonté a vécu avec les hommes et a assumé la nature, l'épaisseur, la forme et la couleur de la chair. Je ne vénère pas la créature à la place du Créateur. Mais je vénère le Créateur fait créature, réduit à la créature, sans abaissement ni amoindrissement, pour glorifier ma propre nature et me faire participer pleinement à la nature divine. Je représente Dieu l'invisible, non pas en tant qu'invisible, mais dans la mesure où il est devenu visible pour nous par la participation à la chair et au sang. Ça, c'est Jean Damascène. Ainsi, l'incarnation du Verbe est pour Saint Germain et les Damascènes, comme pour l'ensemble des défenseurs des saintes images, le fondement dogmatique de l'icône du Christ, seule et unique image peinte, il faudrait dire portrait, seule image peinte possible de Dieu, portrait possible de Dieu, puisqu'il y a un corps humain. Arrêtons-nous un instant à cette notion d'image personnelle ou de portrait. Étant donné que selon le théopaschisme chalcédonien et entériné par le 5e concile œcuménique de 553, il n'y a pas d'hypostase humaine en Christ. Les iconographes peignent le portrait de sa personne divine selon sa chair déifiée. Mais que dire que des personnes humaines, naturellement corporelles et donc descriptibles, ne seraient-elles en rien concernées par la notion d'indescriptibilité? Déjà Saint Nicéphore, patriarche de Constantinople et confesseur des icônes du début du IXe siècle, a dû se poser la question, bien que sa terminologie manque ici de précision. Faisant allusion au copronyme, l'empereur iconoclaste Constantin IV, c'est-à-dire à l'empereur, le patriarche Nicéphore s'exclame « Que dira-t-il du composé humain, chaque homme étant une hypostase unique, mais composée de deux natures, ecfision et theon, l'une visible et circonscrite, et j'ajouterai iconique, l'autre intelligible et non descriptible. » Quand on peint le portrait d'un homme, S'imaginerait-il qu'on figure conjointement l'invisible avec le visible? Pour répondre à cette question du patriarche Nicéphore, nous sommes obligés de quitter pour quelques instants la théologie et l'économie des personnes divines du Fils et de l'Esprit et de nous tourner vers l'anthropologie. Dans une conférence faite au Collège philosophique le 12 février 1952, et intitulée « La notion théologique de la personne humaine », Vladimir Lossky se demande si le refus du Concile de Chalcédoine d'admettre deux êtres personnels distincts en Christ signifie que dans les êtres humains, il faut également distinguer la personne ou l'hypostase et la nature ou substance individuelle. Mais comment opérer alors cette distinction entre la personne et ce qui constitue sa nature complexe, corps, âme, esprit, selon le schéma trichotomique? Il faudrait en effet trouver une propriété définissable ou une attribution étrangère à la physis qui appartiendrait exclusivement à la personne prise en elle-même. D'après Vladimir Lossky, dans l'anthropologie patristique, il n'est nulle part question de telle propriété ou attribution, et cela complique singulièrement l'élucidation du concept patristique de la personne humaine. Dans ces conditions, Lossky propose de se concentrer d'une forme d'apophase et de dire: la personne signifie l'irréductibilité de l'homme à la nature. Irréductibilité et non quelque chose d'irréductible ou quelque chose qui rend l'homme irréductible à sa nature. Justement, car il ne peut s'agir ici de quelque chose de distinct, d'une autre nature, mais il s'agit de quelqu'un qui se distingue de sa propre nature, de quelqu'un qui dépasse sa nature, tout en la contenant, qu'il a fait exister comme nature humaine par ce dépassement, et cependant n'existe pas en lui-même, en dehors de la nature qu'il en hypostasie, et qu'il dépasse sans cesse. Ainsi, il semble que le niveau sur lequel se pose le problème de la personne humaine dépasse celui de l'ontologie tel qu'on l'entend habituellement. Cela dit, tâchons de voir plus loin et demandons-nous si, en parlant de la personne humaine, il faut pour autant se limiter à la seule affirmation de son irréductibilité aux attributs de la nature qui en font l'individu de l'espèce. Il n'en est rien. Si l'on veut tenir compte des exigences personnalistes de l'anthropologie chrétienne, qui doit pouvoir répondre à la capacité de l'homme de manifester Dieu, la notion d'image ou à l'image, katikone, apparaît comme fondement de la doctrine de l'irréductibilité de l'être humain, ou encore comme un autre aspect de cette même doctrine. Qu'on le veuille ou non, l'image échappe à la capture. Et tant qu'il y a image, il y a liberté, avait écrit Marie-Josée Monzin dans l'image naturelle. Nous touchons ici à ce qu'il faut bel et bien appeler le mystère de la personne humaine, mystère que nous discernons en vertu d'une relation singulière et unique de la personne humaine à Dieu qui l'a créée à son image, divinement irréductible et inaliénable en tout homme. Selon Grégoire de Nice, cette image de Dieu dans l'homme est nécessairement incognoscible, car en reflétant la plénitude de son archétype, elle doit posséder aussi l'incognoscibilité de l'être divin. Ainsi, l'imago Dei fonde dans l'homme la personne, fonde ce quelqu'un qui dépasse sa nature tout en la contenant, fonde l'hypostase humaine, sa liberté par rapport au déterminisme de la nature, son ultime incognoscibilité et partant son irréductibilité. Toutefois, En tant qu'image reflétant les propriétés du divin modèle, l'imago Dei ne peut être située dans une partie clairement délimitée du composé humain. Tout en concernant l'homme entier, et donc aussi le corps, elle relève de l'apophase et demeurant indescriptible en soi, se laisse percevoir comme l'au-delà lumineux de tout visage, comme l'étincelle même du regard qui l'habite, rendant manifeste son ouverture infinie à l'image, avec un I minuscule, de l'image, avec un I majuscule. Rembrandt van Rijn et van Gogh auraient-ils tout dit sur eux-mêmes, auraient-ils épuisé le mystère de leur personne dans leur autoportrait? Que non. Pour citer encore une fois Monzin, le portrait est la modalité spécifique de la manifestation de l'être en tant qu'il n'est pas là, et pourrait en ajouter en tant qu'il maintient sa marge d'infigurable. Le portrait met en relation le présent de l'absence. Plus encore, il est ce qui nous met en présence de cette absence et qui la rend manifeste sous le signe de la relation. En fait, dans le portrait, le descriptible fonctionne comme indice de l'indescriptible qui, lui, se présente comme apophatisme indispensable à la sauvegarde de la dignité absolue de toute personne humaine, la sauvegarde de la seigneurie dont parle Lévinas. Par l'habitation de l'imago Dei, par l'inhabitation de l'imago Dei, toute hypostase humaine nous met en présence de Dieu et le rend manifeste sous le signe de la relation. Revenons encore une fois brièvement à saint Irénée. Il relie magistralement le récit biblique de la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu au fait de l'incarnation en disant « Avant l'incarnation, on disait bien que l'homme a été fait à l'image de Dieu, mais on ne pouvait le montrer, car le Verbe était encore invisible, lui à l'image de qui l'homme a été fait. Aussi, la ressemblance elle-même s'était vite perdue. Le Verbe devenu chair rétablit l'image et la ressemblance, car il est devenu lui-même ce qui était à son image, et il imprima profondément la ressemblance en rendant l'homme semblable par le Verbe visible au Père invisible. Autrement dit, le premier Adam a été créé à l'image et à la ressemblance du Christ nouvel Adam, lui-même visible du Père. Il nous reste maintenant à dire encore quelques mots sur l'indescriptibilité de la troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint. Comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, l'indescriptibilité fait partie des apophatismes qui sauvegardent la transcendance divine et concerne ainsi non seulement la nature, l'aussi est divine, commune aux trois personnes, mais tout autant les trois hypostases en tant que Dieu, donc de toute évidence, également la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est partout présent et qui remplit tout, comme il est dit dans la prière « Roi céleste » adressée à lui, n'était sur le plan de l'économie jamais absent des actions divines qui manifestent la volonté commune de la Trinité. Ainsi participait-il aussi bien à la création qu'à la rédemption. L'Esprit de Dieu planait sur, certains auraient tendance à dire couvait, les eaux primordiales, Genèse 1, 2. Et la puissance du Très-Haut vint sur son humble servante. Et c'est pourquoi celui qui naîtra d'elle sera saint et appelé fils de Dieu, Luc 1, 35. L'Esprit Saint, qui a parlé par les prophètes, souffla de bien de manière et bien de reprise, Hébreux 1, 1. Dans les théophanies des visions de l'Ancien Testament et manifestant les énergies incréées de la Trinité. Néanmoins, comme le Verbe, per quam omnia facta sunt, manifestait la sagesse de Dieu dans la création avant qu'il ne fût envoyé dans le monde et n'entra dans son histoire comme une personne divine incarnée, de même le Saint-Esprit dans lequel la volonté divine, créatrice et conservatrice de l'univers, s'accomplissait dès le moment de la création, fut envoyé à un moment donné dans le monde pour y être présent non seulement par son action commune avec toute la Trinité, mais en tant que personne intimement liée dans leur œuvre commune sur terre, le Fils et le Saint-Esprit restent néanmoins dans cette œuvre même deux personnes distinctes, l'une de l'autre, quant à leur être hypostatique. Puisque l'Esprit, même lors de sa venue hypostatique, le jour de la Pentecôte, vient non en son propre nom, mais pour rendre témoignage à la divinité du Fils que les deux ont en commun avec le Père et s'efface pour ainsi dire en tant que personne, il n'y a pas non plus d'image personnelle de l'Esprit. Toute l'iconographie du Saint-Esprit se réduit donc d'un point de vue formel à la représentation des apparences qu'il choisit pour ses théophanies. Langue de feu à la Pentecôte, colombe au baptême du Christ, nuée de lumière à la transfiguration. La tendance décadente de représenter une colombe chaque fois qu'il est question d'une action de l'Esprit, comme par exemple dans l'Annonciation, incita le Grand Concile de Moscou en 1663 à préciser cette constat pas vraiment surprenant, l'Esprit Saint n'est pas oiseau par nature, et qu'il fallait s'abstenir de telles figurations. À titre d'un autre curieux, mentionnons encore l'image pieuse, entre guillemets, du Saint-Esprit en jeune homme qui circulait en Allemagne du Sud au début du XVIIIe siècle, une religieuse de la ville de bavaroise de Kaufbeuren, elle avait des visions du Saint-Esprit en tant que jeune homme, et qui provoqua la célèbre bulle Sollicitudini Nostri du pape Benoît XIV en 1745. La popularité de cette image anthropomorphe de la personne du Saint-Esprit montre bien à quel point la réorganisation de l'art chrétien initiée par la Renaissance était entrée dans les us et coutumes de la chrétienté occidentale de cette époque. Revenons à des considérations plus théologiques. La doctrine de l'Église d'Orient distingue la personne du Saint-Esprit des dons que cette personne communique aux hommes. Ces dons, qu'on appelle aussi la grâce, sont toute la richesse de la nature divine. En tant qu'elle se communique aux hommes, c'est la divinité qui se donne par les énergies incréées. La distinction entre l'essence et les énergies divines provient de la nécessité de formuler un enseignement capable d'établir un fondement proprement dogmatique à l'union de l'homme avec Dieu. L'œuvre du Christ se rapporte à la nature humaine qu'il récapitule dans son hypostase. L'œuvre du Saint-Esprit, par contre, se rapporte aux personnes, s'adressant selon un mode unique à chacune d'elles. En tant que créée à l'image de Dieu, le Christ ouvre son hypostase à la nature commune de l'humanité. L'Esprit offre sa divinité aux personnes qui veulent l'acquérir. L'économie du Christ unifie celle de l'Esprit diversifie, mais les deux demeurent inséparables car leur œuvre commune se réalise et par l'union de la personne se réalise dans et par l'union de la personne humaine avec Dieu. Ce processus, qui ignore toute opposition entre liberté et grâce, puisque la grâce et ce qui procure à l'homme son développement, non pas surnaturel, mais naturel en Dieu, se réalise dans la synergie, la coopération volontaire de la personne humaine avec l'unitrinité des personnes divines. dans cette économie du salut qui se présente pour l'homme comme une naissance, une vie nouvelle, suivie du combat pour y persister, nous retrouvons tout naturellement la double dispensation des deux mains du Père sous la forme d'une complémentarité du don et de la tâche. L'image de Dieu ternie dans la nature commune à tous les hommes est restaurée en Christ. Dans le baptême dans lequel meurt le vieil Adam et où le nouveau fidèle ressuscite en Christ, s'accomplit cette restauration pour chaque croyant individuellement. C'est le don christique. Le Saint-Esprit permet à tous ceux qui sont recréés à l'image du Fils dans cette eau baptismale de continuer à perfectionner cette ressemblance par la parachever. C'est la tâche réalisée par l'effort de l'acquisition de l'Esprit. Mais puisqu'il y a synergie, l'Esprit Saint ne reste pas passif. C'est le Saint-Esprit lui-même, selon sa nature, tout aussi indescriptible que Dieu le Père, qui, en s'unissant aux personnes humaines par la grâce incréée, œuvre en divin artiste pour embellir et parfaire discrètement la ressemblance au modèle christique en l'homme. Lui, l'Esprit invisible, est l'iconographe achiropoète en nous, car la multitude des visages de ceux et de celles qui ont su faire face, la nuée des saints et des saintes, composera son image. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Père. On va peut-être profiter de ces quelques minutes qui nous restent pour vous demander comment vous allez organiser les prochaines sessions et puis aussi vous demander quels ouvrages vous allez recommander à nos étudiants qui sont en première année de premier cycle, c'est-à-dire en première année de licence.
Ah oui. Eh bien, je pense que ce qu'on va faire, ce sera relativement... il faut évidemment travailler sur les images elles-mêmes. Ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est introduire tout simplement la problématique théologique de l'image et certaines conséquences qui en découlent. Alors, soit la prochaine fois, soit la fois d'après, qui sera notre troisième fois, on va évidemment passer tout le cours avec des images. Je dis peut-être pas encore la prochaine fois, parce qu'il y a encore, comment dirais-je, un chapitre un peu théologique, mais qui sera plus près de la peinture. Là, ici, c'était vraiment la théologie patristique et la pensée du 7e concile. Mais je ne voulais pas commencer un cours sans poser les bases doctrinales. Enfin, au moins indiquer quelques-unes de ces bases, parce que c'est évidemment pas exhaustif. Alors, j'ai pensé qu'il serait peut-être utile de se tenir dans ce cours, qui était un cours d'introduction et qui, par définition, doit être assez basique, donc de traiter les différentes sortes d'icônes telles que nous la connaissons dans notre vie liturgique. Et je commencerai, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, par les icônes du Christ.
Bien sûr.
Et de la Mère de Dieu, disons pour une séance, Christ et la Mère de Dieu, avec tout ce que cela peut impliquer. Et puis, un certain nombre de saints qui, grâce à, au genre de leur sainteté ont une iconographie plus ou moins particulière. Et puis, évidemment, peut-être même avant les autres saints, peut-être même tout de suite après la Mère de Dieu, il faudrait se tourner vers les fêtes principales de l'année liturgique, soyons simples, pour les 12 grandes fêtes, qui méritent largement de s'intéresser à cette iconographie, parce que c'est cette iconographie-là qui est ce qui représente, grosso modo, avec les icônes du Christ et de la Mère de Dieu, et de quelque sorte, on pourrait dire, notre nourriture iconographique principale, n'est-ce pas, au cours de l'année liturgique. Et si nous avons, j'espère qu'on aura le temps, si on n'a pas le temps de maintenant jusqu'à l'été, eh bien, si Dieu nous prête vie, nous pourrons évidemment, dans ce cas-là, prolonger cela en automne, si
bien entendu.
Cela, vous pensez,
bien entendu.
Peut-être possible.
Alors, Père, c'est très important d'avoir cette vue programmée, générale, de ce que vous allez faire.
Alors, les livres.
Les livres.
Alors, oui, alors, c'est très simple. La Bible de notre matière, c'est le livre de mon maître, adoré et vénéré, Leonid Ouspensky.
Alors, cet ouvrage est recommandé systématiquement pour tous les étudiants.
Très bien,
voilà.
C'est pour tous les étudiants, parce
oui,
que tout un chacun qui veut faire la théologie orthodoxe doit passer par là.
Voilà.
Mais d'autant plus ceux qui se sont inscrits en iconologie. Voilà. Donc ça c'est traduit dans, enfin je veux dire, le livre évidemment a été écrit en russe, a été traduit d'abord en français, a été publié par les éditions du CERF, donc dans les années 80, début des années 80, donc il existe depuis. Et on peut dire que c'est l'œuvre magistrale et fondamentale de cette discipline que Leonid Alexandrovitch a inventée, créée lui-même. Il était, je vais juste dire deux mots sur lui, parce qu'il le faut. Leonid Alexandrovitch était donc un jeune émigré russe dans les années, début des années 20, venu en France parce qu'il se destinait à la peinture. Il a dû travailler dans des usines. Il a eu une vie très difficile, mais finalement, il a réussi à venir de Lyon à Paris à pied et de trouver donc ici quelques années. Et il s'est inscrit à l'Académie de peinture russe qui a été fondée par la fille de Léon Tolstoï, Tatiana Lvovna, qui, cette académie a existé toute une année, et après elle était fermée par manque de fonds. Mais ceux qui ont commencé sont restés amis et ont travaillé ensemble, et même pendant l'été, leurs professeurs les invitaient, notamment en Normandie pour des vacances, ils peignaient des paysages en Normandie, etc. Bon, à cette académie, Leonid Alexandrovitch a fait connaissance du futur moine Grégoire qui s'appelait à l'époque Jura Krug. Georges Krug, qui était né encore à Saint-Pétersbourg, mais sa famille a émigré et s'est installé en Estonie, où il a été à l'école et où il a aussi fait ses études à l'Académie des Beaux-Arts à Tallinn en Estonie. Il a fini et puis il est venu en France. Leonid Alexandrovitch n'a jamais eu de formation académique. C'est vraiment, même dans le dessin, un self-made man. Et ça permet d'apprécier aussi de son caractère, sa volonté de création. Donc les deux sont devenus amis, et Leonid Alexandrovitch, qui dans sa jeunesse était de jeune, était de conviction très, très, un peu très de gauche, mais pas du tout religieux. Grâce à Crook, il s'est rapproché de l'Église et grâce à lui, il s'est intéressé aux icônes. Et pour être bref, ces deux-là ont commencé chez les antiquaires. Chez les antiquaires de Paris, de peindre, dessiner des icônes. Et ils sont devenus, un peu de temps avant la guerre, iconographes eux-mêmes.
Alors c'est très intéressant et on aura l'occasion d'en reparler. Une suggestion, puisque nous vivons en Occident et que nous vivons dans la civilisation de l'image, il sera important pour nos étudiants de bien faire comprendre la différence entre une icône et une image religieuse. Parce que nous avons beaucoup trop souvent des gens qui viennent nous présenter avec beaucoup de piété des objets qui en aucune façon ne sont des icônes. Et je pense qu'il y a une petite information précise à faire à ce sujet.
Oui. Et il y a encore un peu de temps ou... Oui. Il y a les choses sont relativement simples. C'est que l'icône, c'est donc l'image liturgique de l'Église orthodoxe. Ça veut dire que l'icône n'est jamais un art pour l'art. L'icône a une fonction précise et c'est cette fonction qui lui donne toute son importance. C'est que depuis l'Antiquité, on peut dire, l'image chrétienne est utilisée par les fidèles comme une aide et une présence du Christ, de la Mère de Dieu, de tel et tel saint, une présence visible dans la prière du fidèle, sorte de support. Parce que c'est vrai que tout être humain, je pense, se trouve plus facilement en contact avec une autre personne lorsqu'il peut voir cette personne, même si c'est une image peinte de la personne. Et c'est donc ce contact dont j'ai parlé tout à l'heure, non ? Ce contact visible entre l'orant, entre la personne qui prie, et la personne à qui est adressée sa prière, qui fait, qui est l'essentiel dans l'icône. Or, pour pouvoir fonctionner ainsi, il y a certains présupposés. Je viens de dire à l'instant que l'icône est faite pour fonctionner, pour servir dans la liturgie, autrement dit dans la prière. Alors, ça veut dire déjà que tout trait, toute couleur, toute expression, tout quoi que ce soit qui ne correspond pas à l'état de prière n'est pas pensable dans l'image qu'est l'icône. Alors ça fait déjà beaucoup. Parce que il suffit de se retourner et voir le monde dans lequel nous vivons, etc., etc. L'icône n'est pas une image qui reproduit la vie quotidienne de ce monde. L'icône est, on pourrait dire, dans un sens, une fenêtre sur l'éternité, sur le paradis, sur les saints, sur le Christ, la Mère de Dieu. Parce que c'est à eux que nous nous adressons en temps de prière. Et puisqu'il y a cette richesse inouïe dans l'Église orthodoxe, dans l'Église, mais plus particulièrement dans l'Église orthodoxe, d'avoir, comment dirais-je, des véritables portraits, il ne faut pas avoir peur des mots, des portraits du Christ, parce que l'icône est un portrait. Et si l'icône du Christ existe, Il y a aussi des portraits du Christ. Mais c'est des portraits, évidemment, sui generis. C'est des portraits spéciaux, exceptionnels, parce qu'ils ne s'attachent pas non seulement à l'exactitude des traits physiques du visage, mais ils veulent aussi montrer la qualité la plus importante du personnage représenté, c'est-à-dire sa sainteté. Et dans le cas du Christ, c'est évidemment la nécessité la plus absolue. Et pour cela, il y a des moyens. Et parmi les moyens utilisés, c'est tout simplement l'étude de la tradition iconographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait bien de se familiariser avec l'histoire de l'image du Christ dans l'Église, dans la tradition chrétienne. Et nous pouvons voir qu'à différentes époques, il y a des accentuations différentes, mais l'essentiel y est toujours. Et l'essentiel, c'est de suggérer que cet homme-là, cet homme, c'est Dieu incarné. C'est la sainteté même de Dieu qui est entré dans un corps humain. Je dis un corps humain parce que la personne de cet être reste toujours la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il ne faut jamais oublier cela. C'est la divinité qui est entrée dans le corps. Et ce corps, effectivement, il est visible et descriptible. Donc on peut le peindre, on peut le dessiner. Et c'est comme ça qu'on devient iconographe.
Merci, Père.